Radio Okapi.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Au sommaire de ce journal, le président de la République Félix Tshisekedi crée un tribunal pénal économique et financier chargé de réprimer les infractions économiques. Il s'agit là d'une juridiction spécialisée destinée à renforcer la lutte contre la criminalité économique. La défenseure globale des Nations Unies pour la paix, Myriam Boukar Hassan, est en mission à Bounia, dans la province de l'Ituri. C'est dans l'objectif d'apporter un soutien psychosocial aux femmes traumatisées par les conflits armés. L'hôpital Kalembelembe débute ce lundi 16 mars les consultations pour les opérations gratuites en faveur des enfants démunis souffrant des malformations anectorales. Pour en parler, nous recevons Dr Noël Dodo, chef de service de chirurgie pédiatrique de cet établissement hospitalier qui donne quelques détails. Encore une fois, bonjour à tous. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, crée un tribunal pénal économique et financier chargé de réprimer les infractions économiques et financières en République démocratique du Congo. Dans une ordonnance loi signée le 14 mars 2026, le chef de l'État congolais institue cette juridiction spécialisée destinée à renforcer la lutte contre la criminalité économique, notamment la corruption, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite ou encore les blanchiments des capitaux. Les points avec Christian Makasinga.
Dénommé Tribunal pénal économique et financier en sigle TPF, cet organe judiciaire disposera d'une autonomie fonctionnelle et d'un budget propre inscrit au budget national. Son siège est établi dans la capitale Kinshasa avec la possibilité de créer des sièges secondaires sur l'ensemble du territoire national. Selon l'ordonnance, le tribunal sera composé des deux chambres, une chambre des premières instances et une chambre d'appel. La juridiction comptera au moins 40 juges dont 20 magistrats des carrières et 20 juges assesseurs. Un parquet général économique et financier sera également rattaché à cette juridiction pour instruire et poursuivre les infractions relevant de sa compétence. Toutes les affaires liées aux infractions économiques actuellement pendantes devant les juridictions ordinaires seront transférées à cette nouvelle structure dès son installation. Les tribunaux pénaux économiques et financiers devraient être effectivement installés dans un délai de 3 mois après l'entrée en vigueur de l'ordonnance-loi. Cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités de renforcer la transparence et la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo.
En Ituri, je le disais tout à l'heure en titre, la défenseure globale des Nations Unies pour la paix, Myriam Boukar Hassan, en mission au chef-lieu de la province, a échangé samedi avec des femmes leaders ainsi qu'avec des femmes issues de différents contingents de la MONUSCO. Objectif, apporter un soutien psychosocial aux femmes traumatisées par les conflits armés. Elle a également participé à une patrouille motorisée et pédestre des casques bleus dans les rues de Bounia. Le point avec Isaac Remoyopé.
Échange autour des problèmes spécifiques des femmes et participation aux patrouilles des femmes casques bleus de la MONUSCO ont marqué la première journée de la visite de la défenseure globale des Nations Unies pour la paix. À travers ses activités, Myriam Boukar Hassan a voulu encourager les femmes à surmonter les défis auxquels elles sont confrontées au quotidien, mais aussi à assumer pleinement leur rôle d'architecte de la paix.
Cette type of activity is important because women. L'activité est très importante parce que les femmes sont très importantes pour la construction de la paix et c'est important de prendre en compte la spécificité psychologique. Je prie pour la paix et chaque chose a une fin et je prie pour que ce jour arrive, pour que la paix arrive en fin de vie, so that they can find peace.
La présidente du collectif des femmes de l'Ituri affirme que cette visite redonne espoir et sourire à ces femmes dont la plupart ont été victimes des affres de la guerre. Elisabeth Bouvet.
Dans le peu de temps, on a eu à dégager les femmes de leurs problèmes. Ils ont une solution psychologique et la détraumatisation. C'est une façon de la recherche de sa joie perdue. C'est là qui était un peu, je dirais, étouffée par les problèmes.
Myriam Boukar Hassan a également salué le dynamisme des femmes de l'Ituri dans leurs efforts pour leur autonomisation. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Droit garanti, autonomisation pour toutes les femmes et les filles et zéro discrimination, zéro violence. Garantir et promouvoir les droits des femmes et des filles pour un manière plus juste, thème au centre d'une journée de réflexion dans la province du Maniema. Organisée ce samedi 14 mars par la division du genre famille et enfants, cette rencontre a réuni toutes les couches de la population au sein de la maison de la femme. Objectif, interpeller la conscience des hommes et des femmes sur la situation de la femme au Maniema. Florence Kizalunga, reportage.
Parlant de droits, Maître Laini Tenda Keren a prouvé au public que la femme, en plus d'avoir des droits comme tout être humain, a aussi ses droits spécifiques qu'elle est censée connaître.
La femme a plusieurs droits, comme tout être humain, et au-delà de ces droits-là, elle a aussi ses droits spécifiques. Et la femme, parfois, elle est même ignorante de ses propres droits.
Sylvie Kaloumé, qui a exposé sur l'autonomisation de la femme, invite ses pères à briser la paix et à oser.
Les femmes doivent briser la peur et dénoncer les violences. Elles doivent s'informer et oser de nouvelles expériences qui peuvent être des activités créatrices ou génératrices de revenus.
La chef de division du genre, Pouachéoussi Elisabeth, s'attend à un maniement plus juste après les engagements des uns et des autres.
Nous nous attendons vraiment à un changement et ce changement demande une lutte de notre part puisque nous voulons rendre notre maniement plus juste par rapport à nos actions. Donc les femmes, nous devons agir par rapport au contexte que nous sommes en train de traverser dans notre province.
Sachez que c'est dans le cadre du mois de la femme que cette activité a été organisée. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
À Goma, au Nord Kivu, l'organisation appuie aux initiatives communautaires de conservation et de développement durable AICED demande aux mères et aux jeunes filles de limiter leur dépendance au plastique pour protéger leur vie. Pour cette organisation, ce sont elles qui, au quotidien, subissent les impacts de la pollution plastique. De la cuisine aux habitudes de consommation, en passant par leur hygiène, les femmes sont appelées à adopter des gestes écologiques simples mais salvateurs. Le point avec Rosalie Zawadi.
Malgré les multiples sensibilisations sur les dangers liés au plastique dans nos communautés, on n'arrive pas à adopter les bonnes habitudes, regrette Faustin Yebouné, directeur de l'organisation AICED. Pour lui, rien ne peut justifier cette absence d'action face au danger qui représente les plastiques qui a envahi notre quotidien.
Quand la vie est menacée, ça devient une question d'ordre moral. Par exemple, vous dites que cet enfant, les gobelets qu'il utilise contiennent du poison. Vous allez dire non, il faut d'abord amener notre gobelet de substitution et laisser d'abord l'enfant. Non, là ça devient une question d'ordre moral de responsabilité. Et là on agit vite. Tout est devenu plastique dans les ménages. On mange si le plastique, on boit si le plastique, on donne naissance aux enfants si le plastique. Et lorsque c'est la nourriture au mets, comme on l'a dit, la nourriture chaude dans les récipients en plastique, les emballages en plastique, tous ces additifs-là vont se retrouver dans les aliments et on sera intoxiqué.
C'est référent au thème de la journée des droits des femmes cette année qui appelle à l'action. Monsieur Nyebouné invite les femmes à agir pour leur santé car elles sont les plus touchées par la pollution plastique de par leur anatomie et leurs habitudes quotidiennes. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Kapi.
Un acte de naissance pour chaque enfant, c'est le nom d'une campagne de sensibilisation lancée samedi à Beni par le Parlement d'enfants de Beni et Butembo, deux villes du Grand Nord Kivu. Selon le porte-parole de cette structure de défense des droits des enfants à Beniville, cette initiative vise à rappeler les dispositions de la loi portant protection des enfants qui garantit à tout nouveau-né le droit d'être enregistré gratuitement à l'état civil dans les 90 jours suivant sa naissance. Au téléphone de Marc Marofimbo, Georges Kambale Ngoumaïri revient sur l'importance de cette campagne.
Dans cette campagne, nous visons à sensibiliser la communauté sur l'importance de l'acte de naissance auprès des enfants. Mais aussi, nous comptons aussi faire un plaidoyer auprès des autorités en faveur des enfants pour que ces derniers puissent voir comment pallier à la situation des enfants, pour que tous les enfants aient les actes de naissance. Vous savez, à part l'acte de naissance, c'est un instrument qui montre la nationalité d'un enfant. Et un enfant qui n'a pas d'acte de naissance, c'est un enfant qu'on pourra considérer comme un apatride. Un apatride, c'est toute personne qui n'a pas de nationalité. Alors, nous voulons aussi mettre un accent particulier sur cette situation, en tant que Parlement d'enfants, vu que ça revient dans l'article 16 de la loi numéro 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, qui nous montre que tout enfant a droit à l'acte de naissance. C'est dans cet angle guidé que nous, tant que Parlement d'enfants, nous avons vu mieux d'initier cette campagne afin que donc tous les enfants puissent avoir des actes de naissance.
Pour rappel, cette question avait été au centre d'un atelier de réflexion en janvier dernier à Béni. Les autorités compétentes s'étaient alors engagées à trouver des solutions durables pour améliorer les systèmes d'enregistrement des naissances. Ici à Kinshasa, l'avancement des travaux sur la route de Kimwenza dans la commune de Mongafula redonne espoir aux habitants et aux usagers longtemps confrontés à l'impraticabilité de cet axe. Pour de nombreux habitants, cette route représente bien plus qu'un simple axe de circulation. Elle constitue un passage essentiel vers les écoles, les zones d'approvisionnement en denrées alimentaires et d'autres produits de première nécessité qui alimentent plusieurs quartiers environnants. C'est un reportage signé Daniela Awa.
Rencontré sur les lieux de travaux, un père de famille venu accompagner ses enfants à l'école se réjouit de l'avancement du chantier.
Au début, la difficulté était plus grande parce qu'on était obligé de laisser nos véhicules quelque part. Je suis un parent, je quitte les bois, j'amène mes enfants à une école de l'autre côté, obligé de traverser la partie ravin. Mais parlant de travail, ça évolue très bien.
Pour cette vendeuse de légumes rencontrée près du chantier, la réhabilitation de la route représente une véritable satisfaction pour les activités commerciales.
Nous étant les vendeuses de légumes, nous avons tellement souffert par rapport à l'état de la route. Petit à petit, nous reprenons nos activités, nous sommes très contentes.
Les conducteurs de taxi-moto, très présents sur cet axe, saluent eux aussi l'évolution des travaux. L'un d'eux témoigne des difficultés qu'ils ont traversées durant les mois passés.
Nous avons connu de longues difficultés sur cette route. Il est impossible d'arriver jusqu'à Kimwenza, même quand un client est demandé. D'ailleurs, cet endroit est devenu un arrêt.
Pour ces usagers, l'évolution des travaux marque déjà la fin progressive d'une longue période de difficultés sur cet axe essentiel de la commune de Mongafula. N'ayant pas souhaité s'exprimer à notre micro, l'entreprise qui exécute les travaux nous a tout de même précisé que cette route sera ouverte incessamment.
Dans la province de la Chopo-Kisangani, certaines maisons, terrasses et même des boîtes de nuit sont érigées sur des tombes. D'après la synergie des avocats pour le développement durable, la spoliation du cimetière de Kambakamba, dans la commune de Kabondo, a franchi le seuil du tolérable. Cette structure l'a dénoncé auprès du procureur général près la cour d'appel de Kisangani. Les explications avec Jacques Moukonkole.
Face à ce qu'elle qualifie de profanation à ciel ouvert, la synergie des avocats pour le développement durable passe à l'offensive. Dans une correspondance adressée récemment au procureur général près la cour d'appel de la Tchopo, l'ONG dénonce un réseau mafieux bien établi. Selon ce document, le mal est profond. Malgré les alertes passées, les pelleteuses n'ont pas reculé. Pire, l'organisation pointe du doigt des complicités internes au sein de l'administration foncière, de la municipalité et même des services de sécurité et de renseignement. Aujourd'hui, les avocats exigent une enquête minutieuse pour démanteler ce réseau. Leurs recommandations sont fermes. Annulation des titres fonciers illégaux, déguerpissement immédiat des occupants, et surtout que l'État prenne ses responsabilités pour sécuriser les lieux de repos éternels. En attendant, à Kambakamba, le repos des morts est troublé par le bruit des chantiers. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président sortant Denis Sassou Nguesso, 82 ans, brigue un cinquième mandat consécutif. 6 autres candidats étaient officiellement en lice, sans aucun poids lourd de l'opposition, puisque les deux principaux partis n'ont pas présenté des candidats. Les bureaux de vote sont fermés depuis 18h ce dimanche 15 mars. Une journée de vote marquée par la coupure toute la journée du réseau téléphonique et d'Internet. En décembre dernier, Israël a été le premier pays du monde à reconnaître les Somaliland. Cette région sécessionniste a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991 et exerce de fait sa souveraineté, mais la Somalie continue de revendiquer ses territoires et aucun pays membre des Nations Unies n'avait jusqu'alors reconnu les Somaliland officiellement. Les objectifs d'Israël ne faisaient pas grand doute, mais des révélations faites par un média suédois et mercredi dernier par l'agence britannique Bloomberg apporte des précisions sur les projets israéliens de construire une base militaire au Somaliland, un projet auquel la Somalie est tout à fait opposée.
L'invité.
L'hôpital Kalembelembe débute ce lundi 16 mars les consultations pour les opérations gratuites en faveur des enfants démunis souffrant de malformations anorectales. Invité de Radio Capi, Dr Noël Dodo, chef des services de chirurgie pédiatrique de cet établissement hospitalier, indique que cette campagne, qui bénéficie de l'appui financier de l'ONG Vinmark, attend plus de 50 enfants. Il précise également que les consultations s'organisent pendant 10 jours, tandis que les interventions chirurgicales proprement dites commenceront le 29 mars et se clôtureront le 30 avril 2026. Docteur Noël Dodo s'entretient avec Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour docteur Noël Dodo.
Bonjour.
L'hôpital pédiatrique de Kalembelembe lance ce lundi 16 mars les consultations pour les opérations gratuites des enfants démunis. En quoi consiste cette opération?
En général, ce sont des interventions de la chirurgie digestive et viscérale. Donc, nous entendons par la chirurgie digestive tout ce qui intéresse les tubes digestifs. En termes simples, les intestins. En gros, c'est plus les enfants qui naissent sans anus. Dès les premiers jours de la vie, on fait une intervention qu'on appelle stomie. On fait sortir l'intestin à partir de la paroi de l'abdomen. Donc, au niveau du ventre, l'état de lui faire une plastie de l'anus. Donc, ce sont des enfants qui ont ce qu'on appelle la malformation anorectale. À part ça, il y a d'autres qui font des constipations à répétition. Dès le bas âge, il fait des constipations. Il se présente avec un gros ventre. La plupart des cas, on les appelle la maladie de Hirschsprung. À part ça, il y a des enfants qui ont été opérés en urgence dans différentes structures pour soit une maladie qu'on appelle la péritonite, c'est-à-dire un intestin qui était perforé dans le ventre, ça créait des puits et on l'a opéré avec mauvais état. On prend les intestins, on fixe ça au niveau de la paroi, qu'on appelle également stomie, pour reconstituer la continuité des intestins. Ces enfants-là sont aussi concernés. Il y a des enfants qui font des hernies, les enfants qui ont de cryptochondries et autres, de maladies de la paroi du type digestif.
Vous débutez les consultations, mais quand commencent exactement les interventions chirurgicales?
Parmi ces enfants-là, on doit faire des examens qui sont aussi pris en charge. Et après les 10 jours, à partir du 29 mars, pendant 3 semaines, nous allons faire maintenant les opérations chirurgicales.
Cette campagne est conçue pour quelle durée?
Si nous prenons le tout, c'est pour une durée tout au plus de 45 jours. Donc ça fait à peu près un mois et 15 jours, donc du 16 mars jusqu'au 29-30 avril.
Vous estimez intervenir en faveur de combien d'enfants au total?
Au total, nous allons prendre au moins 50 enfants de maladies graves. Mais ce qui est vrai, ceux qui ne seront pas opérés, on pourra le prendre encore à une deuxième phase de la campagne qui va se passer entre fin mai, première quinzaine de mois de juin. Donc encore 30 jours. Donc on va prendre une partie pendant cette campagne et puis une autre partie qui va rester probablement fin mai, début juin.
Docteur Dodo, Noël, bénéficiez-vous oui de l'appui de quelques partenaires dans la mise en œuvre de ces programmes?
Effectivement, nous avons une ONG qui est basée à Lubumbashi, au Katanga, qui est une fondation qu'on appelle Fondation Vinmark. C'est vraiment cette fondation-là, en collaboration avec le ministère provincial de la ville de Kinshasa, qui prennent en charge tout ce qui entre en jeu pour organiser toutes ces interventions chirurgicales.
Si ce n'est pas un secret, à combien s'élève les coûts de cette activité?
Je pense que ça peut être aux alentours de 30 000 à 50 000 dollars.
En marge de cette campagne en faveur des enfants, avez-vous un message à lancer à tous ceux qui vous suivent sur Radio Capi?
Particulièrement, nous voulons lancer le message, surtout à nos enfants qui sont nés sans anus, qui sont partout au pays, et particulièrement aussi tous les enfants qui sillonnent la vie de Kinshasa, avec les intestins qui sont au niveau du ventre, et que les gens demandent de l'argent par-ci, par-là, pour que ces enfants-là soient aidés à être opérés. On peut nous diriger tous ces enfants-là qui trimballent dans la vie de Kinshasa, qui cherchent le moyen pour être opérés. C'est l'occasion pour que tous ces enfants-là nous viennent à l'hôpital pédiatrique de Kalembelembe pour qu'ils soient opérés gratuitement.
Docteur Noël Dodo, nous vous disons oui. Merci.
Oui. C'est à moi de vous remercier pour cette opportunité.
C'était notre invité, le docteur Noël Dodo, qui s'entretenait avec Blaise Ndongala Mayanda. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal Parler qui a connu la coordination et la supervision éditoriale de Jude Mystère Bilandan Kumar et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.